Émilien Verdon.
C'est une petite révolution dans le marché de l'électronique. Le chargeur universel est obligatoire à partir d'aujourd'hui dans l'Union européenne. Cela concerne bien sûr les nouveaux smartphones, tablettes ou encore écouteurs. Tous les petits appareils électroniques vendus doivent maintenant être équipés d'un port de charge de type USB-C, conséquence de l'application d'une directive adoptée en 2022 par l'UE. L'idée était de réduire le gaspillage et d'éviter la multiplication des câbles en limitant la production de déchets. Une idée, une volonté européennes qui ont mis tant à se traduire concrètement et à devenir une réalité. Retour sur l'épopée contrariée d'une législation pionnière avec Jean-Jacques Herry à Bruxelles.
Il aura donc fallu 15 ans pour que ce qui n'a longtemps été qu'un serpent de mer se traduise concrètement. Tout débute en 2009 lorsqu'un protocole d'accord sur le sujet est signé entre 14 fabricants de smartphones et l'Union européenne. Conséquence directe, une première uniformisation. La plupart des téléphones sont alors équipés d'un chargeur micro USB avec une exception notable, les iPhones d'Apple. Et puis, au cours de la décennie suivante, plusieurs marques comme Apple, donc, mais aussi Samsung, continuent avec leur propre système. Faute d'accord, la Commission européenne décide alors de passer à la contrainte avec une première proposition de loi en 2021. Une nouvelle règle adoptée et votée par le Parlement européen à une écrasante majorité en octobre 2022 pour une mise en place progressive jusqu'à aujourd'hui, jour où la loi entre pleinement en application. Contrairement à Samsung, Xiaomi ou Google, Apple et son iPhone ont fait de la résistance contre l'USB-C, accusant la nouvelle règle de nuire à l'innovation, avant de finir par s'y conformer en annonçant en septembre de l'année dernière intégrer le port universel USB-C à son nouvel iPhone 15. Jean-Jacques Herry, RTS, Bruxelles.
Après l'éviction du président il y a quelques jours, puis de son remplaçant hier, la Corée du Sud fait face à d'importantes secousses économiques. Le won, la monnaie locale, a chuté à son plus bas niveau depuis 2009 face au dollar. Certaines entreprises ont perdu confiance, ce qui pourrait avoir des conséquences à plus long terme. On rappelle que le 1er décembre, Yoon Suk-yeol a proclamé la loi martiale, une tentative avortée ayant engendré une crise politique dans le pays. Le département fédéral des affaires étrangères devra à nouveau se pencher sur le cas d'un ancien combattant suisse de l'État islamique. Il est détenu en Syrie et souhaite être rapatrié. L'administration fédérale avait dit non. Après recours, le tribunal fédéral lui demande de revoir sa copie. Motif invoqué, il faut tenir compte du danger dans la situation actuelle en Syrie, ce qui nécessite, le cas échéant, selon le TF, une nouvelle évaluation de la menace pour la vie et l'intégrité corporelle invoquée par le requérant. Pour Jean-Luc Adore, conseiller national UDC Valaisan, c'est la sécurité qui devrait primer sur toute autre considération.
Il y a un problème de sécurité publique. Et puis si on doit mettre en balance l'intérêt de la Suisse, l'intérêt public de la Suisse à garantir sa propre sécurité, d'une part, et puis d'autre part, l'intérêt personnel d'un individu qui a fait le choix de combattre notre civilisation, bah pour moi, le choix est vite fait. J'ai fait le choix de la sécurité de la Suisse et des Suisses.
Des propos recueillis par Phileas Sautier. Plan d'action contre le crack à Genève, premier bilan après une année. Il fait déjà effet selon le directeur de l'association Première Ligne qui gère le local d'injection K9. Une situation qualifiée aujourd'hui de sous contrôle, ce qui n'était pas le cas il y a un an selon lui, explique-t-il dans le journal Le Temps. Le canton a lancé cette mesure, elle doit durer 3 ans. Qui sont les gagnants et les perdants de la faune sauvage cette année en Suisse? Le WWF vient de publier son rapport 2024. L'ONG souligne l'espoir que représente la réimplantation réussie de la loutre et de la cigogne blanche. Reste que dans un contexte de recul toujours plus rapide du nombre d'espèces, elle tire la sonnette d'alarme notamment pour le hérisson, mais aussi du loup. Et au vu de la tension qui entoure la question de sa régulation, Tania Zaspinard a demandé à Pierre Etret, la porte-parole du WWF, s'ils avaient profiter de ce bilan annuel pour adresser une pique aux politiques.
On sait que malheureusement la politique ne tient aucun compte en Suisse des avis des scientifiques. Donc je pense que c'est bien de rappeler quand même qu'il y a des études qui existent à ce sujet qui montrent que le loup, il a aussi son rôle dans notre écosystème helvétique. Il a un rôle tout à fait bénéfique, notamment pour les forêts et pour maintenir des populations saines de gibier. Et puis, ce à quoi on assiste ces derniers temps, c'est une régulation qui n'a rien de professionnel. Donc, on peut se dire que c'est politique, mais nous, on voit ça vraiment d'un point de vue d'espèce. Il ne faut pas oublier que le loup, malgré tout, il reste encore une espèce qui ne se porte pas forcément très, très bien, même si c'est bien développé ces dernières années. C'est un peu l'exemple que si on arrête certains efforts, tout à coup, une espèce, elle peut aussi vraiment très, très vite à nouveau basculer du côté des perdants.
En hockey sur glace, les deux clubs suisses ont su rebondir à la Coupe Spengler après leurs défaites initiales. Fribourg-Gotteron et le FC Davos ont tous les deux gagné hier. Les Dragons ont battu 6-4 les Finlandais de Kärpät-Oulu. Les Grisons, eux, ont aisément pris la mesure des Straubing Tigers. Score fleuve de 5-0 contre les Allemands. Pour la météo, ça ne vous aura pas échappé si vous êtes sur le plateau. Le stratus y est tenace aujourd'hui encore et ne devrait pas se dissiper. Il faudra grimper en dessus de 800 mètres d'altitude pour voir le soleil dans cette région. Ailleurs, ciel bien bleu partout. Côté thermomètre, on attend pour cet après-midi au maximum entre 2 et 3 degrés autour du Léman jusqu'à 7 en Valais. Demain, on reprend exactement les mêmes et on recommence. Une tendance qui devrait même se poursuivre jusqu'à la fin de cette année 2024. Début 2025 est pour l'instant plus incertain.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info. Cette année, vous avez été plus d'1 300 000 chaque semaine à partager des émotions avec la RTS, à vous informer avec nous, à vous réveiller chaque matin ou vous endormir le soir. Vous avez été nombreux à vous étonner, à vibrer, à rêver, à rire avec nous. Cette année, vous avez été plus d'1 300 000 chaque semaine à nous faire confiance. Alors merci. Merci parce que nous souhaitons pour 2025 vivre encore ces moments-là avec vous. La RTS vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. RTS Première, 6h-9h le samedi. Karine Vasarino.
Bonjour, bonjour, ravie de vous retrouver en ce samedi 28 décembre, dernier samedi de l'année 2024. Et aujourd'hui, on prend des résolutions.
Moi, ma résolution, c'est d'arrêter de me battre avec mon petit frère et puis d'avoir un meilleur comportement à l'école.
Et mes résolutions, c'est d'arrêter de faire des bêtises parce que j'arrête pas de faire des bêtises. J'arrive pas à me contrôler.
Quelques résolutions de la bouche des enfants. Leur vérité, c'est avec Mélanie Chapuis dans près de 10 minutes. Et si nous emmenions les enfants au zoo, auront-ils la vocation comme cet apprenti de première année au zoo de Servion ?
J'ai eu la chance de beaucoup voyager, puis je suis amoureux du monde sauvage, faune, flore, depuis tout petit. Ce zoo, c'est un petit peu le zoo de mon enfance, où je viens depuis très longtemps. C'est super cool d'avoir une place ici, je suis très content de faire exactement ce que je fais et ce à quoi je m'attendais de faire.
Et je recevrai à 7h35 deux sœurs, Céline Bulliard et Virginie Grivel. Elles ont pris il y a 6 mois la direction du zoo de Servion, dans le canton de Vaud. Elles nous parleront de cet héritage familial. Le zoo a fêté ses 50 ans en 2024. Et il rejoint Zoo Suisse dans quelques jours. On verra avec quelles conséquences. Les Invisibles, aujourd'hui, portrait d'une jeune femme qui œuvre au sein d'une association pour les enfants du Laos.
Si je continue à ce que je fais là avec l'association, c'est vraiment sur le long terme, voir une croissance, une amélioration, et de voir qu'en fait, tout ça, on l'a fait pour amener au moins un certain pourcentage d'enfants à réussir et à enfin avoir un métier souhaité et pas un métier qui leur est imposé.
La suite de ce témoignage dans Les Invisibles à 7h18 et à 7h30, le journal des sports aujourd'hui avec Grégoire Pérou. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Merci à Vicky Garou, notre attachée de production, Luana Biadici à la réalisation, Jonathan Aslebacher est à la technique aujourd'hui. Programmation musicale, Stéphanie Jovanovic.
Mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tombera, je veux qu'il tombe derrière moi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Moi qui ai tout choisi dans ma vie, je veux choisir ma mort. Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie et d'autres en plein soleil. Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans un
Julien Doré qui se prend pour Dalida, c'était Mourir sur scène. Il est 7h12.
La vérité sort de la bouche des enfants.
Tu veux mon avis?
Moi, je vais te dire ce que je pense.
Ah oui, on le sait. Oh, c'est quoi le thème?
Et on retrouve nos enfants pour connaître leur vérité. Bonjour Mélanie Chapuis.
Bonjour Karine.
Alors, c'est quoi le thème aujourd'hui?
Alors, le sujet, c'est nos résolutions. À l'approche de la nouvelle année, nos enfants se font quelques promesses, se lancent quelques défis. Parmi lesquels?
Manger plus sainement, moins grignoter.
Arrêter de prendre l'argent de mes parents des fois et aller m'acheter des bonbons.
Moins manger entre les repas.
Arrêter de manger que des cochonneries.
Entre 10 et 12 ans, nos petites, et déjà inquiètes. Il y en a aussi parmi les garçons qui se soucient de leur poids. Alors les amours, on va faire un truc, vous mangez ce que vous voulez et ensuite vous lâchez vos écrans et vous sortez jouer dehors. Vous verrez, tout ira bien.
Bon, maintenant que vous avez résolu le problème de la gourmandise dans le monde, Mélanie, d'autres résolutions?
Go.
Faire plus de compost, trier les déchets.
Moi, c'est d'arrêter de me disputer avec mon frère.
Moi, c'est de sauver l'argent pour un voyage au Japon avec mes copines.
Moi, c'est pas trop insulter les gens.
Mieux m'endormir. Je vais coucher moyennement tôt, mais enfin genre une heure classique. Mais après, je mets du temps à m'endormir parce que j'ai chaud.
Bah moi, c'est de quand les gens ils m'embêtent, c'est de pas les taper parce que l'année dernière j'avais fait ça, et j'avais réussi et maintenant ça recommence.
Bah moi, ma résolution c'est d'arrêter de me battre avec mon petit frère et puis d'avoir un meilleur comportement à l'école.
Et mes résolutions c'est d'arrêter de faire des bêtises parce que j'arrête pas de faire des bêtises. J'arrive pas à me contrôler.
On a tous quelque chose en nous de Hulk, surtout à la préadolescence.
Et oui, difficile de tenir nos résolutions parfois, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'ils ont déjà tenté l'aventure l'année précédente?
Oui, ils n'en sont pas à leur premier coup d'essai.
J'ai essayé d'arrêter de manger trop de chocolat, mais et j'ai réussi.
Bah moi, c'était d'arrêter de taper mon frère et j'ai réussi.
L'année dernière, je me souviens plus trop, mais je crois que c'était genre arrêter d'être antipathique. Mais je sais pas si j'ai réussi.
Et croyez-moi sur parole, il a réussi. C'est chez lui que nous sommes, avec une bonne dizaine de ses amis qui sont venus pour nous. Merci les enfants. Bon, on continue. Vos résolutions de l'année dernière, est-ce que vous les avez tenues?
Je sais pas, genre moi, on me dispute avec mon frère et moi, et j'ai jamais réussi.
Bah, moi, c'était pas insulter les gens. Et j'ai pas réussi.
Moi, ma résolution de l'année dernière, c'était parler en levant la main. Si on regarde mon bulletin, on voit que j'ai pas réussi.
Encore raté. Caramba. Mais ça nous empêche pas de réessayer.
Bah oui. En fait, ce qui est bien avec ça, c'est que si t'aimes pas faire quelque chose, mais t'arrives pas à t'en empêcher, bah avec tes résolutions, bah ça aide. Parce que tu te donnes un objectif. Et je trouve que c'est mieux pour atteindre un but, d'avoir un objectif.
Moi, je crois que c'est bien d'avoir un objectif. Parce que sinon, on sait pas quand il y a des limites.
Moi, je trouve que c'est bien d'avoir des objectifs. Comme ça, après, tu peux mieux t'entendre avec les autres. Et puis, si tu as fait des mauvaises notes et puis que tu les améliores après, bah, tes parents ils seront plus contents. Ils seront plus contents.
Bah, moi, ça m'aide à atteindre mon but.
Bah, moi, je trouve que c'est bien parce que, bah, on s'améliore.
Bah, des fois, on les dit, mais on les fait pas.
Moi j'aime bien, mais je sais pas si je vais arriver à mieux dormir. Du coup, bah des fois on peut pas tellement faire nos résolutions.
Bah je pense que c'est bien de se donner des objectifs, mais quand même, genre c'est pas obligé de les faire complètement.
Et oui, ils ont raison, tenir déjà une bonne partie de nos objectifs, c'est pas mal, n'est-ce pas Mélanie Chapuis? Alors je vous souhaite une bonne année 2025.
Et une bonne année aux enfants de 7 à 12 ans, aux frères et sœurs qui nous ont accompagnés cette semaine.
Mathieu Bogart, c'est JP Nataf. Demain sur RTS Première. Les Invisibles, portrait aujourd'hui de Laura Grangier. Elle gère à distance, depuis son salon, le parrainage d'enfants du Laos pour l'association NK Seeds. Cette étudiante de 24 ans vient de rentrer du Laos où elle a passé 2 ans à s'engager sans relâche et bénévolement pour que les enfants aient le droit de jouer, d'apprendre et d'envisager un avenir meilleur. Raphaël Bouchier l'a rencontrée chez elle, à Châtel-Saint-Denis. Elle appelle l'un des collaborateurs laotiens de l'association. Ken lui fait le compte-rendu de sa journée sur place.
Ça a été les visites aujourd'hui ?
C'est trop bien, mais ils m'ont dit que c'est le seul qui ne vient pas à l'école, qui ne va pas à l'école aujourd'hui. J'ai dit, mais pourquoi ? Ils m'ont dit qu'il part avec son ami, le jardin de bananier.
Donc, il n'est pas allé à l'école parce qu'il est allé dans les champs, tu dis ? Pour récolter les bananes ?
Oui, oui. Finalement, il est dans l'école aujourd'hui.
Ok, bah parfait alors. Merci beaucoup de m'avoir... d'avoir pris un petit peu de temps pour me parler. On peut se rappeler demain si tu veux. Bonne soirée.
Bonne soirée à toi. Non, c'est bonne journée à toi.
Ouais, merci.
Qu'est-ce qu'il fait, Ken, sur place ? Racontez-moi ce qu'il vous a dit.
Alors là, en fait, c'est la semaine des visites. Donc, il se rend dans chaque famille et chaque enfant qu'on parraine au sein du programme de parrainage d'enfants pour s'assurer que les enfants vont bien à l'école, voir un peu comment va la famille et puis surtout pour amener le don. Donc, chaque mois, on a des parrains suisses, des parrains français ou belges qui donc parrainent un enfant chacun. Et chaque mois, il va apporter le don. Là, en l'occurrence, vu qu'il y a l'hiver qui arrive, on a apporté pas mal d'habits chauds. Parce qu'il y a beaucoup de familles qui n'ont pas de quoi se protéger du froid. On apporte ce mois-ci des vestes, des couvertures, des choses comme ça.
Parce que là aussi, il fait froid aussi.
Oui, il ne fait pas aussi froid que chez nous. Mais la nuit et tôt le matin, il peut descendre facilement jusqu'à 5 degrés, 8 degrés. Et le problème, c'est que beaucoup de gens ne vivent pas dans des maisons en béton. Donc, c'est des personnes qui vont vivre dans des petites cabanes en bambou ou en bois. Et donc, ils n'ont pas du tout de quoi se protéger du froid, comme nous, on a la chance ici en Suisse. L'association, elle a commencé ses actions à travers des écoles gratuites d'anglais. Donc, on a commencé à donner des cours d'anglais gratuits dans les villages. Et puis après, elle s'est développée en faisant des missions, donc principalement des missions de distribution de fournitures scolaires en premier. Et puis après, on est venu avec le programme de parrainage d'enfants, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont déscolarisés, qui ne peuvent pas continuer l'école. Donc ça a été ça la suite. Après, on a commencé à parrainer des étudiants aussi, pour leur permettre de continuer les études supérieures. Et puis après, ça a continué avec des missions d'adduction d'eau, pour amener l'eau dans les villages qui n'ont pas l'eau courante, et des missions de construction de toilettes, construction de réfectoires, de cantines, etc. Moi, je rêve que les enfants du Laos aient plus d'opportunités pour leur futur. Beaucoup de Laotiens, beaucoup d'enfants n'ont pas, comme ils ont même pas le droit en fait de rêver à autre chose. C'est vrai que je me suis rendu compte, l'été il les passe à travailler, alors que moi quand j'étais enfant, je pouvais jouer. Et si je continue à ce que je fais là avec l'association, c'est vraiment sur le long terme voir une croissance, une amélioration, et de voir qu'en fait, tout ça on l'a fait pour amener au moins un certain pourcentage d'enfants à réussir et à enfin avoir un métier souhaité et pas un métier qui leur est imposé.
Comment vous êtes perçue là-bas, en tant que femme blanche ?
On se fait appeler les phalanges, les Français, phalanxé, qui est devenu phalange. C'est donc les personnes, les Français, en fait, les francophones. Alors, je serai toujours une phalange pour eux, mais je suis une phalange qui parle laotien. Donc, il y a déjà une petite proximité qui s'est créée au fil des mois. Je ne voulais pas arriver la blanche qui arrive pour aider. C'était vraiment quelque chose que je redoutais et que je voulais vraiment faire attention à ça. C'est pour ça que tout passe toujours par les locaux. Moi, j'apporte mes connaissances d'organisation. J'ai un CFC en plus de commerce, donc je sais organiser des choses. J'ai ce background un peu informatique, etc. Et moi, je voulais vraiment apporter ça, donc créer ce processus, créer le programme de manière générale. Mais après, sur le terrain, c'est les locaux qui gèrent. Et puis là, je viens de rentrer en Suisse, définitivement, tout en gérant le programme à distance, mais parce que maintenant les locaux sont autonomes, ils n'ont plus besoin de moi. Je garde un lien avec eux et je gère ça à distance.
Parmi ces enfants que vous avez rencontrés, ces familles, quels sont les destins qui vous ont le plus touché ?
Le premier exemple qui me vient en tête, forcément, ça va être Lar. C'est une maman d'un petit garçon qui s'appelle Sang. Et en fait, l'année passée, donc elle avait une maladie, quand on l'a rencontrée, elle avait déjà cette maladie. En fait, c'est 3 boules au niveau de la gorge. C'est une maladie qu'il y a beaucoup dans les villages. On ne sait pas vraiment d'où elle vient, mais en fait, c'est 3 gros kystes énormes. On peut en vivre avec, sauf que plus le temps passe, plus les kystes se grossissent, et plus ça devient difficile de dormir, de respirer. Et en fait, souvent, les personnes en meurent parce qu'elles finissent étouffées. Et là, les boules étaient devenues tellement grosses que ça devenait dangereux pour sa vie. Et on a monté une cagnotte avec le parrain de Sang. Et grâce à beaucoup d'amis aussi suisses, on a pu financer l'opération de cette maman. Et en fait, arrivé à l'hôpital, il ne pouvait pas faire l'opération parce qu'il n'y avait pas assez de sang. L'hôpital ne disposait pas de réserve de sang pour opérer cette maman. Heureusement, j'étais du même groupe sanguin qu'elle, donc j'ai pu donner mon sang et elle a pu se faire soigner. Et c'est vrai que depuis ce moment, ben, voilà, y a un lien qui s'est créé avec l'art et moi. Même si on vit dans deux mondes différents et des réalités complètement différentes, il y a quelque chose qui nous lie et c'est vraiment quelque chose que... Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est dans mon cœur.
C'était Laura Granger dans Les Invisibles. Raphaël Boucher l'a rencontrée.
Every time you kiss me, I could cry, she said. Don't tell me how you miss me, I could die tonight. I've a broken heart, the song in us has changed me. We've been too far apart. And it's too late now for me to just forget. I could cry. Don't tell me how you miss me. I could die tonight. A broken heart. It's only this is changing. We've been too far apart. And there's nothing you can do to change it back, she said. Nothing you can do but sin. Your soul is a fragile thing.
The Cure qui a fait son grand retour en cette année 2024 avec ce titre A Fragile Thing. Il est 7h30. Le journal des sports avec vous, Grégoire Perroux. Bonjour.
Bonjour, c'est un jour de descente en ski alpin, la descente parfois considérée comme la plus dure de la saison. La descente de Bormio aura bien lieu aujourd'hui malgré plusieurs chutes hier lors du dernier entraînement, dont celle très lourde du français Cyprien Sarrazin qui a dû être opéré hier soir suite à un hématome intracrânien. La piste de la station italienne ne laisse pas indifférent dans le milieu. Certains la détestent tout simplement. Patrick Delletreau.
Le français Nils Allègre assumait totalement ses propos hier sur Eurosport, affirmant que la piste qui sera celle des prochains Jeux Olympiques étaient mal préparés et que les organisateurs ne méritaient pas d'avoir ces Jeux. D'autres restent plus modérés, parlant, comme Marco Edermatt, d'une piste un peu dangereuse car le revêtement, souvent glacé du haut en bas ces dernières années, est changeant ce week-end et qu'il est difficile de bien régler son matériel. Et comme pour souligner les dangers de cette piste, la Stelvio, le skieur suisse Yannick Chablot a annoncé hier qu'il mettait un terme à sa carrière de sportif de haut niveau. Il ne s'est jamais vraiment remis de sa chute il y a 2 ans, à Bormio, justement. Des Suisses qui jouent souvent placés sur cette piste en descente, mais une seule fois gagnant en 31 éditions, Didier Defago l'emportait en 2011, alors que Marco Odermatt est le double vainqueur sortant du Super G qui se déroulera, lui, dimanche.
Et cette descente de Bormio est à suivre sur RTS2, premier départ à 11h30. Et du côté des dames, Camille Rast s'élancera aujourd'hui avec le dossard rouge de leader du classement général. La Valaisanne s'élancera à 10h pour la première manche du géant de Semmering en Autriche. Une course également à suivre sur RTS2. Et entre Semmering et Bormio, à quelques détails près, il y a Davos où se déroule en hockey sur glace la Coupe Spengler. Brian Wacker, vous avez commenté la rencontre d'hier soir entre le HC Davos et les Allemands des Straubing Tigers. On attendait une réaction des Grisons. Eh bien, Brian, elle a bien eu avec ce succès 5-0.
Effectivement, réaction, il y a eu du HC Davos. Les Davosiens ont montré finalement de quoi ils étaient capables. Ils ont montré ce qu'ils montraient en championnat. Une grosse efficacité, on a presque envie de dire une efficacité chirurgicale, parce que dans le troisième tiers, ils sont allés assez peu devant le gardien adverse, Zane McIntyre, mais ils l'ont battu à 3 reprises dans ce troisième tiers. Et à chaque fois sur des attaques placées, sur des attaques finalement très très dangereuses, mais sans rester trop longtemps dans la zone. Et ça a permis de créer un écart sur lequel finalement les Straubing Tigers n'ont pas réussi à revenir.
Merci Brian. Et si on remonte un peu dans l'après-midi d'hier, Fribourg-Gotteron s'est bien ressaisi également après sa défaite frustrante au tir au but lors de son premier match. Hier, les Fribourgeois ont relevé la tête avec une victoire 6-4 contre les Finlandais de Karpataulu. Une victoire qui a fait plaisir aux nombreux supporters et aux défenseurs fribourgeois Benoît Yecker.
Oui, c'est clair, on avait à cœur de montrer une réaction d'hier. On aurait voulu gagner les premiers matchs. On l'a malheureusement pas fait, mais là on a su tenir, donc on voulait redonner quelque chose aux fans, tous les fans qui sont venus ici nous supporter, donc je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire ce soir.
C'est pas fini parce qu'ils ont prévu de rester, les fans.
Bah attends, oui j'espère, non.
Belle réaction qui est venue dès le deuxième tiers, aussi par votre but, ça fait plaisir. Ouais. Comment ça s'est passé là? Un peu de réussite, mais quand même.
Non, la chance ça se crée. Non, écoutez, ça fait toujours plaisir de marquer et surtout aider l'équipe à gagner. Parce que c'est clair que c'était toujours un match un peu de ping-pong. Et puis c'est clair que quand on réussit à entrer dans le troisième tiers en menant d'un goal, on joue pas de la même manière que si on est mené.
Des propos recueillis par Steve Roth. Et toujours en hockey, mais au mondial des moins de 20 ans d'Ottawa, la Suisse subit un début de tournoi bien laborieux. Battue 5-1 jeudi contre la République tchèque, elle s'est à nouveau inclinée hier 2-1 contre la Slovaquie. Ski nordique, les meilleurs athlètes du monde sont réunis à Dobbiaco dans le Tyrol italien. Ils participent au Tour de ski, un circuit en 7 étapes qui démarre aujourd'hui avec les sprints et quelques espoirs de podium dans le camp suisse, notamment avec Valerio Grande et Yannick Ribli chez les hommes. L'analyse de notre consultant Jovien Ediger, interrogé par Jérôme Jeannin.
Je crois clairement maintenant pour eux l'objectif c'est de rentrer en finale et tenter de monter sur la boîte. On a vu qu'ils montaient gentiment en puissance. Du côté de Davos, on a fait une très belle course sur le team sprint. Ça a moins bien fonctionné sur le sprint individuel, mais je crois que c'était notamment aussi du haut matériel qui était clairement pas bon. Donc je pense que autant l'un que l'autre auront à cœur d'essayer de rentrer en finale et puis d'aller chercher un premier podium en individuel cet hiver.
Ça vous semble faisable?
Oui, ça me paraît faisable, surtout que je pense que c'est un parcours qui peut leur convenir. Donc on voit que leur forme était vraiment ascendante sur ce début de saison. Donc j'ai très bon espoir que je pense que l'objectif vraiment ce sera d'avoir un athlète en finale.
Et ces courses sprint sont à suivre dès 14h30 sur RTS2. Bonne journée!
Bonne journée à vous, Grégoire Perroux. Il est 7h34.
RTS Première, 6h-9h le samedi, Karine Vazarino.
Il a fêté ses 50 ans cette année et deux femmes ont pris sa direction. Le Zoo de Servion, un lieu très apprécié des Vaudois et des Fribourgeois, et qui est ouvert même en cette période de l'année, et qui intégrera Zoo Suisse dans quelques jours. C'est une étape importante. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir les deux directrices du Zoo de Servion, Céline Bulliard et Virginie Grivel. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, merci.
Très très bien.
Merci d'être là. C'est vrai que le zoo est ouvert toute l'année, donc voilà, c'est un jour un peu comme un autre pour vous aussi peut-être. Alors peut-être déjà établir un premier bilan de cette co-direction depuis juin, ça se passe bien, vous avez pu bien vous répartir les tâches. Je sais pas qui veut parler en premier.
Oui, 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 ça se passe bien. On prend gentiment nos marques. Après, c'est vrai que nos parents sont toujours là en fait pour nous épauler, nous donner des conseils. Donc c'est vraiment quelque chose qui se passe. La transition se passe en douceur et c'est vraiment très appréciable.
Vous étiez préparée à cette transition? C'était pas forcément prévu dans votre parcours?
Non, c'est vrai que initialement dans notre parcours professionnel, on a toutes les deux une autre formation. Ça, je crois que c'était vraiment la volonté de nos parents, de ne jamais nous forcer à reprendre quelque chose. Entre autres, l'entreprise familiale qui demande un gros, gros investissement. Donc, on est toutes les deux parties dans une autre formation. Et puis, le souhait de nos parents, c'était que si on revient au zoo, c'était par pur plaisir et par envie. Et voilà.
Qu'est-ce qui vous a véritablement décidé de reprendre la direction? C'est votre père, Roland Bulliard, que j'ai croisé d'ailleurs l'autre jour, il n'est jamais très loin, qui vous a pris à part, qui vous a dit « bon, moi je veux prendre ma retraite, les filles, allez, s'il vous plaît, c'est à vous ». Comment s'est passé ça?
Alors moi, dans mon esprit...
C'est Céline.
Exactement. Le zoo a toujours eu une empreinte très très forte chez moi. C'est un lieu de ressources pour moi. C'est un lieu dans lequel j'aime passer du temps, j'aime m'investir. Et c'était presque une évidence en fait. Je savais. Donc je voulais faire une autre formation à côté, mais c'était presque une évidence qu'un jour ou l'autre je tenterais l'aventure.
Donc vous, comme formation, vous êtes infirmière?
Non, je suis juriste.
Ah voilà. Il me semblait bien que je vous confonds depuis le début. Alors Virginie, Céline. Donc vous êtes juriste et vous êtes...
Moi, je suis infirmière.
Infirmière. Donc vous, juriste, mais ça n'a rien à voir avec le zoo, ça n'a rien à voir avec finalement le métier aussi de soigneur. Vous faisiez les entrées quand vous étiez petite, c'est ça?
Oui. On est passé à plus ou moins tous les postes, je pense, au restaurant. On a commencé à travailler très jeune, donc c'est vrai que l'entreprise, on la connaît. Tous les aspects juridiques sont très très importants pour diriger une entreprise, donc c'est vrai que ma formation est très utile dans le milieu zoologique quand même.
Mais c'était un peu pensé de faire cette formation en se disant peut-être qu'un jour ça pourrait servir?
Non, pas du tout. C'est en guillemets ma deuxième passion.
C'est un acte manqué, voilà. En fait.
C'est ça peut-être.
Puis vous, en tant qu'infirmière aussi, c'était prévu peut-être dans votre parcours? Vous vous êtes dit, soigner les gens, c'est soigner les animaux. Ça fait partie aussi de cette vocation, de ce métier?
Alors, il y a effectivement pas mal de ressemblances. Pour ma part, quand j'étais jeune, j'hésitais entre vétérinaire et infirmière. Et en fait, en faisant quelques stages, j'ai vraiment eu une passion pour le métier d'infirmière. Ça s'est révélé à moi assez rapidement, je pense vers l'âge de 10-11 ans. Et puis depuis ce moment-là, j'ai toujours voulu partir dans les soins. Donc j'y suis allée tête baissée, c'était une évidence, une passion, je voulais vraiment faire ça. Et pour ma part, c'est vrai que dans un premier temps, je me suis pas dit que j'allais reprendre le zoo. Mon papa, il travaillait depuis de nombreuses années. J'avais aussi un jeune frère. Et puis on s'était plutôt dit que ce serait une histoire familiale masculine peut-être.
Donc c'est quel cas d'ailleurs, hein.
Oui, alors à la base, effectivement, c'est mon grand-père avec ses frères, puis mon papa, et puis voilà, maintenant
les sœurs.
C'est ça, c'est les sœurs. Et puis après quelques années dans les soins, j'avais toujours la même passion, mais j'ai surtout eu deux enfants. Et le fait d'avoir une famille m'a fait prendre conscience de l'importance de la famille pour moi. Et c'est là que je me suis rapprochée un peu plus du zoo. Je pense que moi j'avais besoin de prendre un peu de distance avec la famille à une certaine période de ma vie. Et puis maintenant je suis revenue parce que j'ai beaucoup d'attachement pour ma famille et j'ai beaucoup d'attachement pour le zoo dans lequel j'ai grandi et beaucoup de respect, énormément de respect pour tout le travail que mes grands-parents ont fait, que mes grands-oncles ont fait et mes parents.
Et donc se rapprocher de la famille, c'est aussi retrouver votre sœur.
C'est aussi retrouver ma sœur.
Vous avez toujours été proches. Le fait de travailler ensemble, Ça peut créer des tensions aussi, un peu ou pas? Vous êtes bien comprise? Comment ça se passe?
Alors, il peut y avoir effectivement peut-être des petites tensions, mais ce qui est important, c'est la communication. Et je pense qu'on a une très bonne communication. On sait se remettre en question, on sait s'écouter, on sait. Ouais, honnêtement, je trouve que c'est très enrichissant de travailler en famille. C'est vraiment quelque chose que voilà qui me nourrit et je suis très fière d'être auprès de ma sœur pour ça.
Oui, moi aussi j'ai énormément de plaisir et de chance de l'avoir et je pense qu'effectivement en travaillant en famille, on peut moins se cacher les choses parce que déjà rien que de se regarder, des fois de s'observer, on comprend qu'il y en a une qui est inquiète ou qui est stressée et puis du coup parfois on n'arrive pas à en parler directement mais on en parle et les choses sortent.
Et les repas de Noël là, c'était on a parlé zoo, on a parlé de quoi?
On a un petit peu parlé zoo.
On a essayé de pas trop en parler.
On essaye de pas trop en parler, mais c'est difficile.
Alors, ce zoo, vous l'avez dit, donc votre père est toujours là, présent. Et puis, le 1er janvier, il y a quand même aussi une étape importante, c'est l'intégration à Zoo Suisse. Qu'est-ce qui va changer pour Servion? Qui répond?
Alors, je pense que les parcs animaliers ne peuvent pas travailler seuls. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de travailler en réseau, en collaboration. C'est sûr que le zoo de Servion fait partie de l'EASA, donc l'Association européenne des zoos et aquariums, déjà depuis 1994. Et Zoo Suisse s'est créé en 2007. Dans un premier temps, c'est vrai que le zoo de Servion n'a pas intégré Zoo Suisse malgré plusieurs demandes de la part de Zoo Suisse, tout simplement parce qu'en fait, il faut aussi avoir le temps de s'y investir. Et je pense que mon papa a géré tellement de choses dans le zoo que ça, voilà, c'était peut-être un petit peu beaucoup pour lui. Mais maintenant, on est deux à la direction, on est aussi, on est un peu plus jeune, on a peut-être un petit peu plus d'énergie que mon papa actuellement. Et puis, on s'est dit que c'était important pour nous d'intégrer ce réseau suisse.
Donc ça, c'est une décision que vous avez prise, vous, en tant que co-directrice. C'est votre empreinte, en fait. Hein. C'est la direction que vous donnez à ce zoo. C'était intéressant quand vous parliez de cette affaire familiale masculine. Ça change quoi, une direction avec deux femmes, une direction féminine? Ça change quelque chose ou pas pour diriger un zoo?
Je pense qu'on va pouvoir apporter quelques petites modifications. Alors après, on va rester dans la même ligne de conduite que notre grand-papa et notre papa, mais peut-être qu'on va apporter un regard un peu plus féminin sur certaines installations, sur certaines choses, au niveau de la direction. Peut-être, j'attends un petit peu de voir ce qui va se passer, mais je pense qu'on a vraiment des cartes à jouer à ce niveau-là.
Ça serait quoi un regard féminin sur certaines installations?
Peut-être au niveau de l'aménagement de certains enclos, ou peut-être l'esthétique un petit peu, travailler un petit peu plus l'esthétique de certains parcs ou de certaines allées, ou apporter une petite un petit peu voilà un côté un peu plus fleuri, ou je sais pas, on y réfléchit.
Une touche plus féminine, vous êtes d'accord avec ça aussi?
Oui, je suis assez d'accord avec ça, même si effectivement je trouve que notre papa a su évoluer énormément avec les années et puis voilà, il met tout son cœur dans l'aménagement, ça c'est vraiment une grande passion pour lui et puis on voit que dans les derniers investissements que le zoo a fait, comme le bâtiment des primates, enfin il y a vraiment énormément de techniques qui a été réfléchie, des décors, enfin des grands volumes, tout a été conçu pour le bien-être de l'animal. Donc ça c'est quelque chose qu'on va continuer.
200 animaux hein, aux zoos de Servion, une vingtaine d'employés. Est-ce que vous recrutez facilement? Est-ce que vous avez beaucoup de demandes? Est-ce que c'est un métier qui est en perte de vitesse, soigneur animalier ou pas?
En tout cas pas. Non, c'est vrai que depuis quelques années, on parle beaucoup plus des parcs animaliers. Il y a eu ces émissions françaises hein, à l'intérieur des zoos, etc., où on voit le travail d'un soigneur, d'un vétérinaire. Et puis, cette approche du coup des zoos via les médias a entraîné beaucoup de passion, je dirais, chez les jeunes. Donc, on a beaucoup de demandes de stages, d'apprentissage, et puis au niveau de reconversion professionnelle aussi, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent du coup à revenir à la nature et au contact des animaux. Donc, on reçoit beaucoup de demandes.
Beaucoup de filles ou pas? Plus de filles, plus de garçons?
Plus de filles, je dirais. Majoritairement féminin, effectivement.
Et ça a toujours été le cas?
Pas du tout.
C'est en train d'évoluer.
C'est en train d'évoluer, effectivement. Oui. Mais là, c'est vrai que ça dépend un petit peu des années, mais effectivement, en tout cas, cette année, on a beaucoup de candidatures filles pour l'apprentissage, par exemple.
Alors, je vous ai rendu visite en début de semaine. J'ai pu rencontrer deux apprentis qui m'expliquent leur travail. Il est 14h environ. C'est l'heure du tri des légumes. On écoute, on se retrouve juste après.
Je m'appelle Tim Rinceau, je suis l'apprenti de première année chez les soigneurs animaliers du zoo de Cervéron. Trois fois par semaine, on reçoit un arrivage de fruits et légumes qui sont les invendus des grandes surfaces Coop et Aldi. Et notre boulot, c'est de tout trier, d'enlever tout ce qui est pourri, tout ce qui n'est pas bon pour les animaux, de manière à ce que les caisses soient pleines de bonne nourriture qu'on puisse distribuer aux animaux.
Alors là, vous êtes en train de trier quoi ?
Alors là, j'ai un peu de salade, j'ai des brocolis, j'ai des petits pois.
Et c'est pour qui ? En particulier, ça va pour quels animaux ? Ça tous va. Les animaux ?
Pas tous les animaux mangent tous les fruits et légumes. Typiquement, là, les salades, moi, je sais que plus tard cet après-midi, je vais pouvoir les donner aux faisans. On a une dizaine d'espèces de faisans différentes, donc je leur donne à chaque fois des salades dès que je fais le tri. C'est le boulot de l'apprenti de première année de faire ce tri des fruits et légumes. Je m'en occupe toutes les semaines.
Comment on donne à manger aux animaux ? Comment ça se passe, justement, ces moments où vous les nourrissez ? Puis c'est des moments, j'imagine, qui sont aussi importants en tant qu'animalier.
Les faisans, c'est assez intéressant parce qu'on peut voir le comportement de s'ils sont réceptifs ou pas, s'ils s'approchent, s'ils ne s'approchent pas. Donc moi, j'essaye de poser un petit peu des feuilles de salade au milieu. J'attends de voir qu'ils viennent. Peut-être si même je peux leur donner à la main. Après, l'idée, ce n'est pas non plus de forcer le contact avec l'animal. Donc si je vois que ça le stresse ou qu'il n'est pas à l'aise, on va juste poser la salade et puis on regardera au fil de la semaine ce qu'il a mangé, s'il a bien mangé. Et tout ça, mais dans l'idée, on essaye quand même d'être le plus proche de l'animal. C'est aussi là qu'on peut voir l'animal de près, s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il est en bonne santé. Si je peux donner à la main, c'est pourquoi pas. Et puis sinon, on pose et puis on observe.
Comment vous avez décidé de faire ici un apprentissage d'animalier aux zoo de Cervéron ? C'est venu depuis tout petit, c'est une passion qui est là depuis toujours ?
J'ai eu la chance de beaucoup voyager, puis je suis amoureux du monde sauvage, faune, flore. J'étais amoureux de ça depuis tout petit. Et puis ce zoo, c'est un petit peu le zoo de mon enfance, où je viens depuis très longtemps. C'est super cool d'avoir une place ici. Je suis très content de faire exactement ce que je fais et ce à quoi je m'attendais de faire.
Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Noah Yeni.
Et vous êtes en deuxième année d'apprentissage.
C'est ça, ouais.
Alors là, j'ai discuté avec Tim, il m'expliquait qu'en première année, il y avait des choses assez spécifiques. Qu'est-ce qui se passe en deuxième année ? Là, c'est une autre étape ?
Ouais, alors c'est une autre étape. On s'occupe majoritairement des singes, donc on fait la tournée des singes. Et avec ça, on a divers animaux aussi. On fait les perroquets, les poneys, les lapins cochons d'Inde et puis les cervales. Puis encore quelques-uns, mais majoritairement les singes.
Donc ça veut dire que les singes, on ne peut pas s'en occuper en première année. Là, on monte d'un cran quand on s'occupe des singes.
Oui, on peut dire ça, ouais, parce que les singes, c'est quand même assez spécifique.
Quel est l'animal avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise et que vous aimez en particulièrement visiter ?
Alors moi, j'aime surtout observer les ours, mais je ne fais pas encore, ce sera en troisième année. Et puis sinon, là, actuellement, sur la tournée que je fais, ouais, les singes, c'est vraiment génial, je trouve, parce qu'ils ont une expression du visage juste assez incroyable. Et puis, ouais, je dirais que c'est les singes. Est-ce que vous voulez venir avec nous à l'intérieur chez les singes ?
Est-ce qu'ils risquent de me prendre mon micro ?
Non, il faut juste bien le tenir, mais normalement, il n'y a pas de problème.
Donc là, je suis dans les coulisses du zoo de Cervéron, interdit au public. Quelle chance !
Ouais.
Là, il y a un sas.
Vous pouvez seulement entrer, on va juste refermer. Voilà. Le sol est propre, on a nettoyé ce matin, donc on a une femelle qui est juste ici, qui est assez âgée. Et puis on a le mâle qui s'appelle Unai, la femelle Peggy. Et en général, pour ce qui est des gamelles de nourriture, quand on vient nourrir l'après-midi à 2h30, ils nous attendent juste sur la branche ici, ou alors pour n'importe quelle espèce, ils nous attendent le plus proche de la porte possible. Et dès qu'on pose la nourriture, ils vont directement sur les gamelles, puis ils vont manger.
Tout ce savoir, vous l'avez appris sur le terrain. Vous avez des cahiers aussi, des livres, des tutoriels sur YouTube notamment. Vous avez 16 ans, donc j'imagine que vous vous informez aussi avec tout le numérique ou pas ?
Alors c'est surtout ici au zoo quand j'ai fait mon apprentissage, à force de faire, et puis que les gardiens d'animaux actuels m'apprennent aussi beaucoup, beaucoup de choses. Donc non, j'ai pas spécialement été sur YouTube ou quoi que ce soit. Après, j'apprends aussi en simultané via les cours que j'ai à Leipzig, à Lausanne. Sinon, c'est surtout ici qu'on apprend pas mal de choses.
Les qualités pour être un bon animalier, là, vous avez 16 ans, vous avez, en tout cas, vous donnez l'impression d'avoir une grande maturité. Quelles sont les qualités, selon vous, qu'il faut avoir ?
La maturité, je pense quand même qu'il en faut un petit peu, parce que si on veut... que caresser les singes ou alors que caresser les animaux. Il faut quand même une certaine maturité, un certain recul pour se dire que c'est quand même des êtres vivants et puis qu'il faut s'en occuper bien. Même les tâches un petit peu plus compliquées, un peu moins bien, entre guillemets, comme le nettoyage, ce qui consiste quand même en, où je dirais quoi, 80% de notre métier, ce serait du nettoyage, je dirais. Ouais, je dirais que la qualité principale, ce serait la maturité et puis un petit peu de courage aussi, quand même. Il faut un petit peu. Bah, comme dans tout métier, au final, mais par exemple, quelque chose aussi qui freine pas mal certains stagiaires, par exemple, qui viennent faire des stages ici. Les odeurs, on est confronté à pas mal d'odeurs différentes. Si je prends un exemple parmi tant d'autres, les moufettes, qui, quand elles excrètent, ça sent vraiment fort. Courage, c'est relatif, mais...
Ça fait partie du métier.
Oui, c'est sûr. Ça, il faut l'accepter, sinon on ne peut pas.
Et comment vous voyez la suite pour vous, l'avenir animalier toute votre vie ou d'autres choses, d'autres rêves? On avait Tim tout à l'heure qui disait qu'il se verrait bien photographe animalier. Pour vous, ça serait quoi?
Alors ça, c'est une bonne question. On me l'a déjà posé pas mal de fois. Pour l'instant, j'adore ce que je fais, il n'y a pas de problème. Si j'ai la possibilité de rester ici par la suite, je serais très content, surtout que dans la région, on n'a pas beaucoup de choses en animaux sauvages. Là, actuellement, je n'ai pas forcément de réponse. Il faudra que je regarde en fin de troisième année, quand la question sera plus proche.
Reportage réalisé ce lundi aux Zoo de Servion. Céline Bulliard et Virginie Grivel, les co-directrices du Zoo de Servion. Peut-être une réaction à ce reportage. On entendait ces jeunes apprentis. C'est des perles rares, hein, il me semble.
Oui, on a vraiment beaucoup de chance avec nos apprentis. On a 3 apprentis, un dans chaque année. Et c'est vraiment 3 perles. On peut vraiment compter sur eux. Ils sont passionnés, ils sont motivés, ils ont envie d'apprendre. Ils ont une envie de bien faire. C'est vraiment un pur bonheur de travailler avec eux. Et on les remercie. Je regardais ma sœur pendant le reportage et je pense qu'on était très touchés par ce qui a été dit. C'est vraiment très, très beau.
Mm-hmm. Beaucoup de fierté à entendre ce discours de jeunes, hein. C'est vrai que 15, 16 ans, c'est jeune pour faire un choix de métier, mais effectivement il y a déjà une grande maturité.
Et c'est difficile, hein. Il dit qu'il faut quand même un peu de courage, hein, pour faire ce métier. Ce n'est pas que caresser les animaux, enfin même ce n'est pas forcément caresser les animaux, vaut mieux éviter, hein, de les caresser. C'est important de le préciser,
oui.
Qu'ils puissent rester à leur état sauvage, ça aussi ça fait partie du zoo de Servion, c'est de préserver cet état sauvage.
Exactement, c'est vraiment important que l'animal garde son instinct le plus pur. Inévitablement, il va être au contact de l'humain, donc il va s'imprégner. Ça, c'est inévitable. Mais déjà, si nous, on fait l'effort de rester à distance, de rester en observateur, déjà là, on offre une meilleure qualité de vie à l'animal. Sinon, l'animal va toujours vouloir rechercher ce contact et finalement, ça lui apportera rien.
Alors, l'observation, hein, c'est important aussi, ça a été dit à plusieurs reprises. Ça, c'est la qualité principale, finalement, d'un animalier, puis même d'un directeur, d'une directrice de zoo. Comment on les observe et qu'est-ce qu'on apprend d'eux? Qu'est-ce qu'ils apprennent aussi de nous? Vous avez peut-être des anecdotes à nous raconter. On a croisé votre papa lundi, qui nous avait expliqué ce qui s'était passé avec les singes. Et peut-être vous les raconter?
Oui, alors effectivement, en 2017, on a refait le bâtiment des primates. Donc ça, c'était une très grosse rénovation. On a dû démolir l'entier du bâtiment. Donc avant ça, il a fallu préparer les groupes et trouver des parcs qui accueillent nos groupes de primates. Donc nous, on a déjà placé une partie pour garder qu'un tout petit groupe, soit un couple, soit 2 ou 3 individus. Et puis, donc une partie des animaux ont été placés à Genève, au bioparc, et une partie au Papillorama. Et les travaux ont finalement duré environ 18 mois. Et en fait, mon papa, qui n'était pas spécialement allé revoir les animaux, alors on avait des nouvelles, on savait qu'ils se passaient bien, enfin tout se passait bien, qu'ils allaient bien. Mais il s'est dit, quelques semaines avant de pouvoir réaccueillir les groupes, eh ben je vais faire une petite visite au Papillorama avec mes petits-enfants. Donc c'était pendant les vacances d'octobre, une journée extrêmement pluvieuse, donc il y avait beaucoup, beaucoup de monde au Papillorama. Et mes parents et mes enfants sont allés, ils ont commencé par manger un petit quelque chose au restaurant, et en fait, nos singes, c'est nos capucins, ils étaient dans l'enclos qui est en face du restaurant. Donc à un moment donné, mon papa a souhaité aller au WC et il s'est du coup levé et il est passé derrière la foule. Donc il y avait beaucoup de visiteurs devant les vitres, mais lui il est passé à l'arrière. Et à ce moment-là, un des capucins l'a remarqué à travers la foule. Alors que mon papa n'a même pas, enfin, il a jeté un petit coup d'œil comme ça,
il n'a pas fait de geste,
il leur a pas, voilà, il leur a pas montré sa présence, mais un des capucins les a vus. Et depuis ce moment-là, Il l'a vu, reconnu, et depuis ce moment-là, ils ne l'ont plus lâché. C'est-à-dire qu'ils l'ont suivi partout où il allait dans le couloir, ils se déplaçaient avec lui. Quand il est allé au sous-sol, ils ont descendu d'un étage et ils sont allés le voir au sous-sol. Donc c'est vraiment incroyable de se dire qu'en 18 mois, les animaux ne l'avaient pas revu, mais immédiatement ils l'ont reconnu et il y avait vraiment cette forme d'attachement qui s'est montrée.
Et vous, votre attachement à certains animaux, aux autres cervions, ça serait avec quels animaux en particulier ?
Moi, j'ai eu la chance de vivre quelque chose de très chouette avec un de nos paons, en fait, qui est avec lequel j'ai pu tisser une certaine relation. Et en fait, il avait pour habitude de venir chanter devant notre bureau parce qu'il savait que voilà, dans le bureau on avait quelques petites friandises pour lui. Alors assez régulièrement, il venait devant le bureau chanter. Et si on sortait pas, en fait, il arrivait même à venir devant la porte et je l'entendais avec son bec gratter contre la porte. Et c'est vrai que c'est un pan qui était très très attachant, qui aimait en fait faire la roue pour les visiteurs. Donc le matin, il venait très souvent devant le restaurant et il faisait la roue pour les visiteurs qui arrivaient dès l'ouverture.
Et vous, Virginie ?
Alors, moi, j'ai effectivement de l'attachement envers plusieurs animaux, mais il y a une espèce, le loup arctique, quand on va vers leur espace, c'est vrai qu'ils nous reconnaissent et ils viennent nous voir et ils font des bonds devant nous finalement pour nous montrer qu'ils nous ont reconnus. Et ça, c'est des moments comme ça qui sont hyper privilégiés. Voilà. Qu'on adore. Je crois qu'il faut le dire. Ça nous apporte énormément et ça nous remet vraiment à notre place, hein, finalement. On a besoin d'eux, ils ont besoin de nous, beaucoup moins que nous on a besoin d'eux, mais je pense que c'est important de respecter ces animaux et voilà, de leur montrer énormément de respect.
Le regard du public, il a changé, hein, sur les zoos en 50 ans. Dans l'approche didactique, est-ce que vous souhaitez aussi développer davantage le numérique ? Est-ce qu'on peut l'éviter ? Parce que finalement, vous m'avez dit, on se rend compte que les gens connaissent de moins en moins la vie des animaux. Mm-hmm. Ça aussi, vous souhaitez le développer ou pas ?
Alors, je pense qu'il faut rester dans son temps. Donc oui, peut-être une partie de numérique, voilà, c'est quelque chose qu'on imagine, qu'on pourrait développer. Maintenant, le tout numérique, je pense que c'est trop. Effectivement, de manière générale, dans notre quotidien, on est toujours plongé soit sur un ordinateur, soit sur une tablette, soit sur un smartphone. Et je pense que bien des fois, on oublie de lever le bout du nez et de regarder ce qui se passe devant nous. Et ce que j'ai envie de conserver aux autres cervions, c'est que les visiteurs qui viennent soient là pour regarder l'animal, pour l'observer, pour voir comment il se développe, comment il interagit, comment il interagit en groupe aussi, enfin, que ça amène finalement des connaissances, mais au travers de l'observation. Parce que j'ai l'impression que l'observation, on est en train de la perdre.
Merci Virginie Grivel. Donc, observons ces animaux, zoo de Cervion. Céline Bulliard, merci à vous. Vous êtes les co-directrices du zoo de Cervion. Et c'est ouvert, précisons-le, le 1er janvier.
Oui, tous les jours de l'année.
Tous les jours de l'année, jour sur 7. Bonne journée à vous, merci beaucoup et bonne fête.
Merci de même.
Aiko, c'était Belle Stars. On part sur la route.
Infotrafic RTS.
Aucune perturbation n'est actuellement signalée sur les routes de Suisse romande. Une information qui concerne les cols. La Forcla est enneigée, elle est interdite aux trains routiers et aux semi-remorques. Le col des Montées est fermé en raison d'un risque d'avalanche. Et pour consulter l'inforoute en tout temps et en temps réel, le site rts.ch/trafic est à votre disposition.
Infotrafic RTS, en collaboration avec les CFF et le TCS.
h 9 h le samedi, ça se poursuit. On est ensemble jusqu'à 9h, mais là, place aux informations.
L'heure avec RTS Première.
Il est 8h sur RTS Première. À tout à l'heure.